La table ronde se nomme Art-thérapie, éthique et déontologie face aux droits culturels. L'objectif de cette table ronde est de savoir situer son activité et affirmer une déontologie professionnelle face aux droits culturels des patients, aux pressions institutionnelles et aux coopérations possibles avec des acteurs culturels. Ce sujet de table ronde, il est plus que d'actualité. Vu cette grande diversité d'approches utilisant les arts dans le milieu du soin, mais que parfois nous amène, nous, comme art thérapeute, à être confrontés à beaucoup de confusion, d'interrogations et parfois des demandes un petit peu compliquées au sein des institutions où on intervient. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, les initiatrices et initiateurs de cette table ronde. Nous aurons pour ouvrir la table ronde donc Monique Adalé, qui est art-thérapeute, danseuse interprète, musicienne et formatrice. Elle est co-référente d'un groupe régional du SFAT, c'est le groupe Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle va vous présenter un peu, elle va poser les premières, on va dire, briques de cette table ronde qui va se construire et qui va continuer à voyager. Pour pouvoir passer la parole aussi à André Fertier, qui est essayiste, président de Sémaphore, porte-parole du collectif national Droit culturel et vivre ensemble Agapé, compositeur, musicothérapeute et interprète français. Il est l'auteur de différents ouvrages que nous espérons pouvoir vous partager aussi via les réseaux ou que vous pourrez retrouver un peu dans la revue. Et nous aurons l'intervention aussi dans cette table ronde de Diaker. Diaker, j'ai peur d'écorcher un petit peu ton nom de famille. Ninguém, art-thérapeute spécialisé dans la
Presque.
dramathérapie. Dis-moi, comment prononce-t-on tout ça?
Faut juste retirer le et. Ning.
Ning. Merci. Donc, dramathérapeute, elle est professeure de Pilates, membre du comité éthique de l'Association nationale de dramathérapie, diplômée du centre de formation Le Mouvement des arts thérapeutes, de même que Monique, diplômée du centre de formation Moveo à Barcelone, création en art physique et mime corporel dramatique. Donc, vous allez voir justement avec ces trois intervenants, intervenantes, comment grâce à leur expérience, grâce à leur formation, grâce à leur questionnement, ça va nous permettre à nous-mêmes aussi de nous ouvrir et enrichir aussi des réflexions et cette relation avec, avec le code de déontologie aussi des arts thérapeutes. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Monique. Merci Monique pour avoir proposé avec Diaker et André cet espace de réflexion et d'échange que je suis sûre sera très très riche. Et je te passe la parole.
Merci à vous de nous avoir accueillis et invités pour cette table ronde et cette réflexion cet après-midi. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet que pour ma part, j'ai amorcé il y a quelques années avec André, puisque j'ai eu la possibilité de pouvoir justement travailler avec Sémaphore sur certains des sujets. Et donc, c'est une continuité pour moi et un grand plaisir de pouvoir mettre en partage cette thématique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'art-thérapie et le métier d'art-thérapeute vivent en France des heures fortes d'engouement social pour la thématique, comme tu l'as précisé, Paola. Parfois, en la rattachant maladroitement au champ de l'animation, de la médiation culturelle, de la pratique artistique soignante, comme ce que je viens aussi de découvrir dans le dernier avis de la Convention Culture Santé de juillet dernier. L'art-thérapie vit également des mouvements tumultueux en interne, chez nous, entre art-thérapeutes, pour construire une reconnaissance de la profession. Et le débat éthique qui est posé aujourd'hui pour notre table ronde sur l'importance d'affirmer une déontologie professionnelle face aux droits culturels des patients fait émerger les dilemmes des postures professionnelles des thérapeutes que nous sommes face aux pressions institutionnelles et sociétales. Il révèle et interpelle l'urgence d'une définition de la profession et d'un cadre légal d'exercice commun qui soit clair, sécure, tant pour les professionnels que pour les bénéficiaires. Les situations qui sont vécues sur le terrain par les autres sont une ressource indéniable pour soutenir cette démarche éthique. Et cette démarche, elle est nécessaire aujourd'hui pour obtenir une reconnaissance qui soit légitime, construite, solide, durable et valide autant pour la communauté des arts thérapeutes que pour la société de droit commun. Et pour cela, ce débat doit s'autoriser au sein de notre communauté, se chercher pour convenir d'un consensus sur la définition et les limites de la profession, qui respecte le droit des patients que nous accompagnons, en faisant usage de valeurs éthiques qui sont la responsabilité, l'engagement, la vertu, la bientraitance. Donc la présentation qui va suivre a pour visée d'inviter chacune et chacun à découvrir cette démarche à travers le partage d'une expérience que j'ai vécue et que je vous présente aujourd'hui en toute humilité et authenticité. Donc tout d'abord, il est important de rappeler que l'éthique interroge la responsabilité. L'éthique commence quand je m'interroge sur la responsabilité de mes actions. Elle exige la conscience des conséquences prévisibles de mes actions. Paul Ricoeur, dans son ouvrage Soi-même comme un autre, donne ses définitions. Il dit que l'éthique, c'est le questionnement sur la visée de la vie bonne et la morale, l'incarnation de la visée de la vie bonne dans des normes. L'éthique ne va pas sans la morale. L'éthique, en fait, c'est une discipline qui questionne et qui offre un chemin pour articuler une réflexion, un contenu, une pratique. Une réflexion sur qu'est-ce que le bien, le mal, qu'est-ce que le juste. Réfléchir sur les valeurs. Quelles sont les valeurs? Comment je les définis? Est-ce que ces valeurs sont universelles? Est-ce qu'elles sont contextuelles vis-à-vis d'un lieu, une institution? Est-ce qu'elles sont culturelles aux personnes que j'accompagne, au pays dans lequel j'exerce? Elles permettent d'articuler l'éthique, un contenu, face à un système de normes, de règles, face à la loi, en tenant compte de la loi, en tenant compte des droits, de la déontologie, d'un règlement intérieur, d'une charte éthique. C'est aussi une mise en articulation avec nos pratiques, une mise en œuvre de la réflexion à l'action en passant par la réglementation, comme je viens de le dire, et l'exercice quotidien et la réflexion en équipe. Donc, à quoi sert l'éthique? En fait, à partir de l'émergence d'un dilemme éthique, c'est-à-dire une situation dans laquelle on est obligé de choisir entre deux possibilités ou deux parties contradictoires, l'éthique va permettre de trouver un compromis pour la situation concernée et le dilemme en jeu. Donc aujourd'hui, à partir de la situation que je vais vous présenter et que j'ai vécue, je vous propose d'aborder ces notions de dilemme et de démarche éthique et de penser ensemble comment affirmer notre déontologie. J'ai nommé cette situation la fine dérive d'un accompagnement en danse-thérapie et musicothérapie en EHPAD. Donc, comme Paola vous l'a dit, je suis art-thérapeute indépendante sur Lyon et j'interviens depuis 7 ans auprès de personnes en situation de handicap, de grand âge et en fin de vie sur leur lieu de vie en institution, leur lieu de soins, à leur domicile privé et en cabinet de ville. Et j'interviens pour des séances individuelles et pour des séances de groupe. En travaillant régulièrement en EHPAD et en établissements médico-sociaux, je suis régulièrement contactée pour des séances d'art-thérapie qui mobilisent la danse et la musique, qui sont mes pratiques. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises à finalement proposer malgré moi même parfois en n'en ayant pas tout à fait conscience, des ateliers d'animation artistique, sociale et culturelle. Alors en général, lors de la première rencontre avec la direction et les équipes, je pose toujours le cadre que j'ai au fur et à mesure affiné, au fur et à mesure des années. Je rappelle la visée thérapeutique des séances et j'énonce les nécessités de leur mise en œuvre, c'est-à-dire des petits groupes de 4 à 5 personnes, une salle fermée, sans passage, une confidentialité respectée, avec la possibilité d'un placard fermé ou d'une salle fermée pour ranger les créations, un droit d'image pour les participants, pas d'exposition des œuvres, un lien régulier avec là où le psychologue de l'établissement pour définir et suivre les objectifs thérapeutiques, et un retour régulier aux équipes paramédicales, voire aux aidants. Pourtant, malgré ce cadre, il est régulier, pour ne pas dire récurrent, que ce cadre glisse du fait des habitudes de l'établissement et fasse doucement basculer les séances thérapeutiques vers l'animation, comme ce qu'il a pu m'arriver dernièrement dans un EHPAD. Et je me suis rendu compte, en fait, de ce glissement en identifiant plusieurs raisons. Tout d'abord, l'organisation de l'espace. J'avais la possibilité de travailler dans une salle fermée, mais dedans, il y avait la machine à café et l'eau gélifiée pour les goûter. Donc, ça générait des entrées intempestives. La salle était fermée, mais elle avait une vitre. Et il était possible de voir le passage continu des soignants et des familles, qui elles-mêmes, du coup, regardaient et interpellaient les participants pendant la séance, le plus souvent par joie de voir les corps s'éveiller et les voix chanter. Mais quid de la confidentialité de ce moment? La deuxième raison, c'est la taille des groupes. Souvent, le groupe s'agrandit et finalement on est 8 au lieu de 6. Aussi, les raisons de fonctionnement à terme. Une fois que les groupes sont constitués et les indications du psychologue transmises, eh bien finalement, c'est l'animateur qui devient mon contact principal. La communication de l'établissement aussi. On m'explique que tous les résidents doivent avoir droit à l'activité. Et là, moi, je me pose une question. Quand quelqu'un a besoin d'une séance du kiné, est-ce qu'on la propose à tout l'établissement? Alors, pourquoi pour leur thérapie? Et puis, on parle de roulement, de groupe, par cycle. Alors, on pose un cadre de 6 mois qui est convenu pour un roulement. Et puis, finalement, ça se réduit à 3 parce qu'il y a les projets personnalisés qui sont en cours. Et puis aussi les raisons de budget. Les objectifs thérapeutiques finalement ne sont plus discutés parce qu'il n'y a pas de temps de réunion rémunérée avec l'équipe psychologique et paramédicale. Et il ne reste plus que le logiciel de transmission où finalement, en tant que professionnel, on se retrouve régulièrement dans un échange unilatéral avec peu de retours. Donc après avoir fait ce constat intérieur au fur et à mesure des mois, j'ai obtenu, après 1 an de collaboration étroite avec les équipes, la possibilité d'intervenir dans une salle plus isolée, fermée, où les œuvres pouvaient être conservées en confidentialité. Ça m'a permis de réduire le nombre de participants à 4, 5 et entrer dans un travail réellement thérapeutique. Très vite, les bienfaits de ce choix ont été perceptibles pour les participants, les équipes et pour moi-même, tant pendant le temps de la séance que pendant les autres temps de la semaine. Et j'ai même pu introduire la mise en lien avec un projet artistique collaboratif autour de la fin de vie. Là, je me sentais tout à fait en accord avec mon métier. Cependant, une nouvelle décision de la direction est venue 4 mois après remettre en question le cadre qui avait été construit en équipe. La décision consistait à séparer l'accueil de jour et l'EHPAD, et cette stratégie se traduisait par la concentration des missions de l'animatrice uniquement sur l'EHPAD et à transférer l'animation de l'accueil de jour aux aides-soignants, ce qui provoque un glissement des compétences, et la mise en place d'un nouvel atelier d'art-thérapie qui a été mené par un collègue. Et pour mon compte, ça s'est traduit par un refus des rendez-vous de travail qui avaient été réintroduits entre-temps avec la psychologue et surtout la fin de l'accès à la salle d'atelier pour la réattribuer à l'ergothérapeute de l'établissement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les missions de l'art-thérapie que j'avais développées et présentées depuis de longs mois n'avaient toujours pas été finalement comprises et intégrées. Donc, je me retrouvais au retour à la case départ avec dans les espaces communs. Donc là, comment composer entre les enjeux et les manquements de l'établissement et la déontologie de ma pratique? Je me retrouvais en fait là face à un dilemme éthique qui était, est-ce qu'il fallait que je m'oppose à la stratégie et à la politique de l'établissement et prendre le risque de mettre à mal le travail engagé avec les participants qui étaient maintenant entrés dans le travail et abandonner le travail que j'avais mené jusqu'alors sur la reconnaissance de la profession? Ou alors, est-ce qu'il fallait accepter cette nouvelle situation et laisser le temps agir vers une nouvelle ouverture en prenant le risque de nouveau de laisser confondre art-thérapie et animation et réduire l'accès aux droits culturels des résidents qui commençaient tout juste à émerger? En fait, tenir le cadre déontologique, c'est parfois s'opposer. Mais à quoi? La première sensation que moi j'ai eue, c'est celui d'un mouvement en fait contre moi-même. Parce que c'est très exigeant de répondre seul à la définition d'un métier qui n'est pas reconnu face à une institution. Et les approches en art-thérapie sont actuellement si diverses qu'il est parfois facile au cadre de direction d'y loger ce qu'ils souhaitent, croient être ou ont besoin des missions de l'art-thérapeute. Et là, on se sent mis en doute sur ses compétences, sur ses connaissances, sur son professionnalisme. Et ça peut être parfois très brutal. Du coup, pour cette situation, j'ai choisi de ne pas m'opposer, mais de résister en cherchant et en composant avec l'équipe sur les interstices du fonctionnement établi. On a regardé le planning. Finalement, le lundi, l'ergo n'est pas là. Alors, on peut proposer les séances d'art-thérapie à ce moment-là. L'équipe soutient et exprime l'intérêt pour les séances et reconnaissent leur utilité pour le soutien quotidien des résidents. Alors, on va inventer de nouvelles façons de communiquer par mail, par visio. L'art-thérapeute de l'accueil de jour, ben, c'est un collègue. Alors, finalement, c'est peut-être l'occasion de parler d'une voix commune sur notre métier et de se coordonner pour créer des liens, des ponts. Mais effectivement, l'épuisement peut être là et le questionnement de où se situe mon travail et pour quelle visée rester parfois en suspens. Tout ça pour vous dire qu'en fait, entrer dans la réflexion éthique, c'est se poser des questions et s'engager. Moi, pour cette situation, j'ai identifié trois axes, mais il peut y en avoir d'autres. Le premier axe, c'était de chercher à identifier avec précision les missions de l'art-thérapeute dans l'établissement, en se demandant quelle offre culturelle est présente dans l'établissement. Les résidents ont-ils tous accès aux offres proposées ou est-ce que certains en sont éloignés par manque d'adaptation de leur offre à leurs capacités? Est-ce que les séances d'art-thérapie font partie du projet thérapeutique de l'établissement et de quelle manière concrètement? Est-ce que ça, c'est pour savoir si finalement elles ne sont pas perçues comme le prolongement d'une offre d'animation? Est-ce qu'on a bien recueilli le consentement des participants? Qui l'a fait? Comment? Et puis, sur un deuxième axe, c'est comprendre les risques engagés si on ne soulève pas la confusion faite entre les séances d'art-thérapie et les ateliers de création artistique ou d'animation. En cherchant à identifier les outils qui marquent la différence entre ces deux modalités, on a des objectifs thérapeutiques, des bilans, des observations. Comment on les montre, comment on les partage? Et puis, c'est se poser la question de si on ne protège pas le cadre de la séance, est-ce que je ne risque pas de donner à voir un atelier d'animation ou culturel bas de gamme? Parce que l'objectif de l'art-thérapie, ce n'est pas d'aboutir à une forme esthétique, mais ça se situe bien dans le processus de création. Et ça, d'un point de vue extérieur, quand on le regarde et qu'on n'est pas en train de le vivre, ça peut paraître un peu léger. Et c'est important de pouvoir resituer les choses. Et puis se poser la question du tort que je cause aux personnes accompagnées en premier lieu, à leurs images. Est-ce que parce qu'elles sont vulnérables, elles ne sont pas en capacité de faire un réel travail thérapeutique? Et puis par rapport à leurs droits, est-ce que parce qu'elles sont vulnérables, elles ne peuvent pas avoir accès à l'offre culturelle seulement par un chemin thérapeutique? Et puis, la question du tort aussi que l'on cause à l'image des professionnels, artistes et culturels, si je propose des ateliers à mi-chemin entre animation et thérapeutique. au travail psychique en cours aussi. Quel tort je risque de mettre, de créer? Comment est-ce que je peux gérer un débordement psychique si je n'ai pas posé de cadre thérapeutique sécurisant? Et puis j'ai identifié un troisième axe qui était de reconnaître ce qui nous pousse à parfois accepter des cadres inadaptés à l'exercice de ma pratique. La première, c'est peut-être la situation précaire dans laquelle je me trouve et le fait d'avoir plusieurs casquettes d'artiste, thérapeute. L'établissement le sait. Est-ce que du coup, ça me donne et ça leur donne le droit de les interchanger ou de les mélanger parce qu'il manque une offre culturelle et que finalement, ça devient un marché? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par ailleurs, un désir non assumé d'être artiste ou médiateur culturel auprès de publics hébergés en institutions médico-sociales? Est-ce que je me suis formée à l'art-thérapie parce que je n'ai pas trouvé de formation permettant d'adapter ma pratique artistique à ces publics? Ou alors, est-ce que je me suis formée pour mon engagement dans un travail psychique avec ces personnes? Et également, est-ce qu'il reste une confusion sur mon métier, une méconnaissance de la déontologie à argumenter auprès des établissements, une confusion qui vient émanerait des attentes sociétales, peut-être aussi des formations que j'ai suivies, une perte de compréhension de mon métier depuis ces années, un sentiment de solitude ou de pression professionnelle face à la hiérarchie institutionnelle? Est-ce que je ne manque pas de supervision en art-thérapie? Tout ça pour vous dire qu'en fait, adopter une réflexion éthique et une démarche éthique, ça nécessite d'emprunter ces étapes de doute, de questionnement, de conflits intérieurs, mais aussi avec les équipes, pour pouvoir aller vers un compromis et des consensus et une négociation. Et accepter parfois la carence d'imagination, accepter parfois la difficulté pour pouvoir aller créer. Créer à travers des dispositifs où l'on fait intervenir du pluralisme de réflexion, de l'intersection de compétences et de la reconnaissance de la valeur de chaque partie concernée, dont les personnes accompagnées. Pour cela, comme dans nos travaux, d'adopter une posture d'écoute active, non violente et bientraitante, et rechercher et comprendre attentivement les différents aspects, les points de vue, les vécus, les réglementations à jour et les cadres légaux qui régissent la situation qui est exposée, qui est vécue. Donc, comme aujourd'hui, où le souhait est d'apporter finalement des éléments à la fois théoriques et de terrain, l'éthique va nous permettre d'ouvrir une réflexion commune et d'oser la critique constructive en ouverture. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette proposition ouvrira des réflexions et des interrogations et un débat qui nous concerne toutes et tous pour pouvoir faire avancer et faire reconnaître notre profession aujourd'hui.